Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'agité du local. Vous êtes toujours sur l'autre radio, bien sûr, dans votre émission autour de l'actualité mayonnaise du lundi au vendredi. En l'occurrence, nous sommes le vendredi 7 avril et au menu de cette émission, on va parler de la semaine olympique et paralympique qui se poursuit jusqu'à ce week-end avec de nombreuses animations dans les établissements scolaires, mais aussi proposées par les IME, en l'occurrence, avec des immersions à l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les élèves des établissements aux alentours qui sont venus voir comment se passait justement la scolarité dans un établissement pour les élèves en situation de handicap. Une première qui a très bien fonctionné, vous allez l'entendre, avec plusieurs retours d'adolescents et de jeunes qui ont participé donc à ces animations. On va également parler poésie et slam avec Thomas Poutot qui sort un nouvel album intitulé « Ceci n'est pas un gland », recueil de poésie, qu'il écrit une première après l'écriture de deux de ses romans. Il sera d'ailleurs au bar La Nef ce soir pour une session poésie et slam. On en parlera justement avec lui de la différence entre les deux, différence pour l'écriture des textes et puis de l'importance de la poésie aujourd'hui en 2023. Et puis comme chaque vendredi en fin d'émission, on fera un petit tour des bons plans ce week-end, des choses, des spectacles, des animations à ne pas manquer. Ça, ce sera plutôt en fin d'émission. Mais d'abord, on fait un très rapide tour de l'actualité avec cette 11e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites hier, qui a réuni entre 2800 et 7000 manifestants hier à Laval. Des chiffres qui diffèrent, hein, donc 2800 personnes selon la police, 7000 manifestants selon les syndicats, en sachant que la mobilisation avait commencé tôt, très tôt d'ailleurs, à partir de 6h30 hier, par un blocage des lycées Réaumur et Buron, avec aussi un défilé des lycéens dans le centre-ville entre 9h et 11h. 11h qui était donc l'heure de rassemblement donnée par l'intersyndicale Place de la Trimoille, toujours à Laval bien sûr. Et puis le cortège qui s'est ensuite élancé s'est même scindé en deux pendant une courte demi-heure puisque les lycéens voulaient se rendre sur la rocade, mais selon les syndicats justement, il y a eu ce petit recadrage et finalement ce cortège qui s'était scindé en deux s'est ensuite regroupé en sachant qu'il n'y a pas eu de débordement pour cette 11e journée de mobilisation ici à Laval. Tout autre sujet ce week-end, la circulation des trains sera interrompue entre Rennes et Laval en cause des travaux d'ampleur menés par SNCF Réseau à partir de demain midi et jusqu'au lundi 10 avril à 10h en gare de Rennes. Des cars seront mis en place pour pallier justement à ces travaux et donc à ces suppressions de trains. Et puis l'actualité sportive hier, c'était entre autres ça. Et oui, Brian Coquart qui gagne la troisième étape du Région Pays de la Loire Tour. On parle de cyclisme bien sûr. Cette troisième étape qui reliait Beaugeais en Anjou dans le Maine-et-Loire à Mayenne, en Mayenne bien sûr. Brian Coquart qui était donc tombé la veille en tout cas, donc mercredi, mais qui cette fois-ci gagne sa deuxième étape après avoir remporté la première. Donc hier, il a donc gagné sa deuxième étape. Et reprend donc la tête du classement général de cette première course dans la région. Et aujourd'hui, c'est la quatrième et dernière étape de ce Région Pays de la Loire Tour, organisée en Sarthe, exclusivement entre Sablé-sur-Sarthe et Le Mans. Puis on reste dans le sport, puisque c'est la semaine olympique et paralympique jusqu'à demain. Et à l'occasion justement de cet événement, les IME, les Instituts Médico-Éducatifs, Jean-Baptiste Messager à Laval et celui de la Maillardière à Château-Gontier, géré par l'ADAPEI 53, ont ouvert leurs portes depuis lundi à la pratique sportive inclusive, c'est-à-dire qu'ils ont invité différents élèves, soit des écoles, des collèges ou des lycées, lycée environnant pour partager avec eux des activités sportives et même un petit goûter à l'issue. L'objectif, c'est bien de faire tomber les a priori et puis de prendre conscience que le handicap n'est pas un monde fermé, évidemment. En l'occurrence, là, je vous propose d'entendre les organisateurs et les participants d'une de ces animations qui avait lieu hier matin à Laval avec des élèves en classe de BTS du lycée agricole Lavallois qui ont participé donc à cette animation sportive au sein de cet établissement qui accueille des élèves en situation de handicap.
Bonjour, donc je suis Florian Stioui, donc je suis professeur de PS en éducation physique et sportive sur l'IME de Laval, donc l'Institut médico-éducatif de l'ADPI 53. Notre projet, c'est l'IME donc ouvre ses portes à la pratique sportive inclusive. Et le but, c'est un peu d'inverser, parce que souvent, donc, les personnes, les jeunes en situation de handicap vont vers les établissements scolaires, donc c'est dans l'air du temps, hein, mais bon, rarement on vient dans nos établissements. Donc le but vraiment, c'est de qu'ils viennent un peu voir un petit peu ce que c'est un établissement spécialisé sur la dynamique du sport. Donc pratiquer ensemble, partager, vivre des moments ensemble. Et dans le même temps, dans cette pratique, on a mis en place aussi une visite d'établissement. Donc ce qui peut permettre aussi aux jeunes de pouvoir visiter l'établissement, voir ce que c'est un établissement spécialisé, les différents métiers et ce qui peut se faire un peu dans l'établissement spécialisé. Et on pratique donc trois activités sportives qui est l'ultimate. Après, il y a un petit atelier découverte de se déplacer en fauteuil et également d'avoir cette sensation aussi de déplacement sous bandeau et aussi avec des masques qu'on a fabriqués pour se mettre en situation de déficience visuelle. Un autre atelier aussi biathlon, donc tir à l'arc avec enchaînement de course à pied. Ça permet de se confronter à ce handicap et voir un petit peu comment on peut adapter, quelle sensation on a, l'émotion qu'on a, et se dire un petit peu dans la vie de tous les jours, si un jour je croise aussi une personne en fauteuil ou qui a une déficience, difficulté à se déplacer, que je suis là et que c'est un peu pour ressentir cet atelier-là.
Ça fait du bien aussi de se mettre à la place des autres et d'en prendre conscience. Et puis aussi l'atelier fauteuil roulant, j'en avais jamais fait et c'est aussi une autre expérience.
Je m'appelle Charlène, j'ai 18 ans et j'habite à Laval et je suis à la CPFP. Parce qu'au moins ils savent comment on est et comment on travaille et tout quoi. C'est ça qui est bien. Parce qu'au moins ça nous crée des liens avec les autres et tout.
J'ai une personne qui est handicapée dans ma famille, donc je sais déjà un peu les difficultés que ça a. Mais ça permet de voir et de vivre un peu ce que les gens handicapés vivent. Là, pour le fauteuil roulant, tout ce qui est rencontre de dodane ou de trottoir, c'est assez compliqué. Faire des marches arrière pour sortir d'un bus, d'un tulle ou je sais pas quoi, c'est compliqué aussi. Et ça nous permet de voir un peu la situation dans laquelle certaines personnes sont. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme sensibilisation.
Une première donc pour cet événement qui réunissait à la fois des élèves donc du lycée agricole Lavallois et des élèves de l'IME Jean-Baptiste Messager et des échanges riches pour cette première qui sera amenée sans doute à être reconduite l'année prochaine. On va faire une pause en musique en écoutant les Brazilian Girls, Let's Make Love, et on revient juste après parler poésie et slam.
Decapotable. let's make love.
Les Brazilian Girls dans l'agité du local sur l'autre radio. Vous l'avez deviné puisque c'est le titre évidemment, Let's Make Love, qui a été répété dans ce titre bien sûr. On va passer à l'interview de ce vendredi où on parle poésie, slam et importance de ces expressions aujourd'hui dans la société, avec Thomas Puteau qui vient de publier il y a quelques semaines son premier recueil de poésie intitulé « Ceci n'est pas un gland », sorti aux éditions Maya. Ce n'est pas la première fois que vous l'entendez sans doute sur l'autre radio, puisqu'il avait déjà sorti deux romans, en l'occurrence un livre témoignage « Je reviens d'une anorexie » et un autre roman moins personnel, moins biographique, « Au sein des miens ». Là, c'est une première donc pour de la poésie, en sachant qu'il sera aussi en représentation ce soir au bar à cocktail La Nef à Laval. Ce sera à partir de 19h30. Une autre manière donc de défendre ces textes qu'il écrit. C'est l'occasion donc de parler avec lui effectivement slam, poésie et importance des mots et de leur usage aujourd'hui.
Je m'appelle Thomas Puteau, j'ai 25 ans, je réside à Laval et je suis né en Mayenne. Je suis également travailleur au sein du cinéma Le Vox à Mayenne.
On vous avait déjà reçu pour deux premiers romans. Et là, cette fois-ci, vous revenez à ce micro avec une autre proposition, un autre ouvrage. Là, pour le coup, un recueil de poésie, « Ceci n'est pas un gland ». Pourquoi un recueil de poésie et qu'est-ce qui se cache derrière ce titre assez énigmatique ?
Pourquoi un recueil de poésie ? D'abord parce que je pense qu'après le premier récit de vie que j'ai pu faire, justement où je revenais sur la période d'anorexie que j'avais pu connaître, et un premier roman qui était sorti en l'hiver 2021, je crois que j'étais un peu épuisé, éreinté après justement ce travail d'écriture au long cours de mon premier roman. Et je pense que j'avais besoin de poursuivre tout du moins ce travail d'écriture qui est nécessaire pour moi au quotidien. Et finalement, en racontant des ribambelles d'histoires comme ça, je me suis rendu compte que j'empruntais justement le chemin de la poésie. Et je crois que justement, comme je le disais dans la présentation, je travaille dans le monde du cinéma et les images, je dirais cataclysmiques, sont un ressort vers lequel j'aime me diriger. J'aime créer, je dirais, la fusion, l'alchimie entre deux termes qui vont créer une forme d'image instantanée. Et je crois que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et pour être tout à fait honnête aussi, je crois que le corsage de la structure narrative du roman m'emmerde un petit peu. Et donc voilà, je suis très heureux de sortir de cette contrainte-là. La poésie permet tellement de choses.
Il y a plus de liberté ?
Ouais, beaucoup plus. Ouais, effectivement, c'est presque la liberté totale. Après, la liberté, c'est un concept qui ne signifie pas grand-chose, mais je dirais que le jeu est au début, et l'alpha et l'oméga, justement, de la poésie. Et la poésie, aujourd'hui, d'autant plus dans une période assez tendue, je dirais, est le contre-pied parfait à cette novlangue un peu politico-capitaliste qui retire toute substance aux mots. Et je dirais que justement, la poésie, on est vraiment dans ce lieu-là, presque de l'anarchisme, où finalement, ce serait l'ordre sans le pouvoir. Tout est ordonné et il y aurait presque une figure comme ça, indéterminée, qui ferait qu'il y aurait la création de ce poème-là, quoi.
beaucoup de choses donc derrière un simple poème, avec des guillemets bien sûr à simple. Hein. Quand vous parliez justement des mots et de leur signification et de leur sens, déjà d'avoir comme titre de recueil « Ceci n'est pas un gland », forcément ça en fait partie et ça évoque ça aussi, le poids des mots et le sens qu'on peut donner ou pas.
Ouais, c'est, enfin, je dirais les mots, il faut qu'ils interpellent. Je pense que tout l'art des mots, tout l'art de la poésie, comment dire, comme je disais, il y avait ce côté un peu anarchique, il y a ce côté un peu rebelle, il y a ce côté un peu iconoclaste. Et je pense que tout mon travail, justement, se dirige vers ça, dans le fait de donner des coups de pied à la langue. Je pense que, enfin voilà, je me compare pas du tout à eux, mais je pense que les plus grands poètes, Rimbaud, Verlaine, ils ont foutu le bordel, finalement, dans la langue française. Et peut-être que l'Académie française ne veut pas l'entendre, organe assez conservateur, mais la langue se meut toujours et tant mieux. Et je pense qu'il faut aussi continuer à la mouvoir, il faut aussi essayer de la saisir, ou du moins la langue, si elle se meut, c'est parce qu'elle souhaite saisir de nouvelles choses, peut-être de nouveaux mouvements, de nouvelles idées, et tant mieux, vraiment.
En sachant que là, les poètes que vous avez cités aujourd'hui sont considérés comme des classiques. Finalement.
Oui, je crois qu'ils se sont fait attraper à leur propre jeu d'une certaine manière. Enfin, voilà, ils voulaient tellement être dans la marge, ils voulaient tellement être en diagonale qu'à un moment, ils ont été rattrapés parce qu'ils étaient énormément talentueux. Et je pense que voilà, ils étaient sans doute trop en avance. Mais je pense qu'à partir du moment où on dérange dans son temps, c'est qu'on a réussi sans doute à imprimer quelque chose de cette époque-là aussi. Pour revenir sur ce titre-là, « Ceci n'est pas un gland », ça interpelle parce qu'il y a la polysémie du terme « gland ». Et en fait, ça rappelle aussi un tableau de Magritte, qui est René Magritte, qui était un peintre belge. Et en fait, il avait voulu, dans les années 30, avant justement qu'il réalise ce tableau-là, il avait voulu se rapprocher des surréalistes français, Paul Éluard, André Breton, etc. Et en fait, il n'a pas été accepté au sein de ce mouvement-là, alors que lui était vraiment un surréaliste aussi, il n'a pas été accepté par ce cercle de poètes français-là. Et en fait, eux, dans la même année, répondent à une enquête sur un peu ce qu'est la poésie, et ces deux poètes-là répondent « la poésie est une pipe ». Et en fait, l'année d'après, Magritte justement fait ce tableau-là presque en opposition à eux, « Ceci n'est pas une pipe ». Et en fait, je suis en accord avec Magritte, et je suis en désaccord justement avec Paul Éluard et André Breton, sur le fait que la poésie va au-delà des poètes eux-mêmes. Et en fait, il y a une transversalité de la poésie, et Magritte l'a imagé, l'a peinturé du début jusqu'à la fin de sa carrière, quoi.
Pourtant, on peut se dire, en tout cas, certaines, que la poésie, c'est aussi des codes, c'est aussi un langage à comprendre, et que c'est pas forcément accessible à n'importe qui, ou qu'il peut y avoir des barrières à cette compréhension, à ce langage poétique, si on peut dire.
Je pense qu'en tant que tel, en tout cas, la poésie est beaucoup moins compliquée que les discours politiques qu'on peut avoir à longueur de journée. Et moi, j'entends la poésie comme n'étant pas excluante, dans la mesure où, certes, elle a des codes, qu'on peut apprendre, mais on peut aussi en sortir. Et je pense que la poésie contemporaine sort de ces codes-là, et peut-être encore plus ancrée dans le réel qu'elle a pu l'être dans le passé, et elle est encore plus libertaire aujourd'hui, elle est vraiment iconoclaste, enfin, elle dépasse plein de choses, et elle n'est pas toujours dans la rime, elle sort justement des codes, et je dirais même, en fait, elle dicte les nouveaux codes actuels. Elle l'a fait en son temps, justement, en mettant en place des codes, aujourd'hui elle en sort, et finalement, en sortant, elle érige de nouveaux codes aussi, donc par ce prisme-là, effectivement, elle est galvanisante.
Pour qu'on puisse se figurer un petit peu ce qu'il peut y avoir dans ce recueil, qu'est-ce qui vous inspire justement ? Qu'est-ce que vous avez voulu, de quoi vous avez voulu parler finalement dans ces poèmes ?
D'une certaine manière, tout est plus ou moins inspirant. Après, quand je disais que la poésie transcendait les arts, finalement, c'est presque un regard qu'on peut avoir sur le monde, ce regard qui peut être poétique. Dans mon recueil, justement, je joue sur cette double polysémie, voire même triple, du mot gland. Un gland, c'est un glandu, c'est quelqu'un de profondément stupide. Et en fait, je les apparente aux au gland de la guerre d'une certaine manière. Donc d'un côté, il y aurait justement dans mon recueil de poésie les glands de la guerre, donc des poèmes sur l'inconséquence de nos hommes politiques quand ils entrent justement en guerre. Il y aurait aussi il y a une forme toujours de rendre hommage, moi, à travers mes textes, aux personnes disparues, aux blessés, aux victimes de ces batailles insensées. Et le mot gland revêt une autre connotation qui serait finalement le gland de l'amour. Donc je pense que c'est des poèmes qui appellent à une forme d'éveil sexuel, à une forme de grâce de la reproduction. Et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et en fait, ça revient incessamment dans tous mes textes, mais je suis sans cesse en train de rendre hommage à la condition féminine dans toute son amplitude. Et voilà, j'ai vraiment voulu rendre hommage aux femmes aimées, notamment celles qui sont parties trop tôt et à toutes celles, en fait, qui bâtissent notre avenir, quoi.
Vous participez aussi, et ce sera le cas d'ailleurs ce vendredi soir, ici à Laval, à des scènes slam. Est-ce que c'est justement ces poèmes-là qui sont déclamés ou c'est même d'autres choses? Et est-ce que c'est quelque chose qui là se met en place petit à petit ou que finalement vous faites depuis déjà un petit peu de temps et c'est complémentaire de l'activité d'écriture en tant que telle?
Je crois qu'il y a quelque chose qui se met en place petit à petit et que je souhaite nourrir. Et en fait, justement, à travers ce recueil de poésie-là, je pense qu'on voit toute mon évolution dans la mesure où j'ai commencé à écrire des poèmes. C'était un peu un exercice de style quotidien. J'envoyais à l'époque des poèmes, en fait, à ma compagne qui était un peu dans le milieu littéraire, etc. Elle me faisait des retours et je me disais, tiens, là, il y a quelque chose. Puis le lendemain, je leur envoyais un nouveau, etc. Et en fait, j'ai
comme
commencé...
Comme des exercices, finalement.
Exactement. Ouais, mais je pense qu'il y a un côté très ludique à tout ça. Moi, j'étais très content d'essayer d'imaginer, avec ce qui m'arrivait au quotidien ou pas, de nouvelles formes de poèmes. Et en fait, je débute, justement, véritablement, ce recueil de poésie avec des poèmes entendus comme étant poèmes. Et je le termine avec un poème beaucoup plus long qui, justement, peut s'apparenter à la lecture, voire même au slam. Et je pense que ça témoigne d'une forme d'évolution, moi, de ma manière d'écrire. Alors qu'avant, je pensais vraiment les histoires de poèmes vraiment quasiment indépendantes les unes des autres. À travers le slam, je raconte une histoire et je pense que je suis davantage dans une forme de stylisation de justement ma propre poésie, dans la mesure où je recherche que le son et le sens, d'une certaine manière, résonnent à l'unisson. Je pense que le son, en fait, crée de la forme à un moment donné et je me joue de ça. Et je me joue aussi de la réaction des personnes. Et donc voilà, on est toujours dans la provocation, on est toujours dans presque l'interpellation, en fait, lors de ces scènes de slam-là. Certaines personnes ne me reconnaissent pas, mais en tout cas, c'est aussi une partie de moi. Et c'est une partie que la poésie me permet totalement d'assumer.
Pour ces textes de slam, on écrit différemment quand on se dit que ce sont des textes qui vont être lus par d'autres, pour le coup?
Ouais, c'est deux travaux très différents. Effectivement, l'écriture de poèmes va se faire un peu, comment dire, va déjà entrer dans les cases de la lecture. C'est-à-dire qu'on peut lire des textes, c'est très intime, on lit des textes chez nous, dans notre livre, etc. Les livres vont dans les endroits les plus intimes de chacun d'entre nous. Donc oui, il y a vraiment ce côté lecture, et je pense que, et ça fait écho avec mon premier livre, je pense que j'ai besoin aussi que les mots sortent d'une certaine manière de la prison de papier, et que les mots passent par mon corps, en tant qu'entité aussi, se joue de ce corps-là. J'ai une manière, je pense, aussi de m'exprimer. Et l'expression, en fait, ne serait-ce que le mouvement, dit quelque chose aussi d'une personne, fait déjà une forme de son, ou du moins, il y a déjà une image qui s'interprète là. Et comme je le disais, je pense que l'endroit de la poésie, ce n'est pas dans un livre. La poésie, elle est dans la rue. Et moi, j'entends aller justement dans la rue. Et même là, je n'ai fait aucune séance de dédicace dans une librairie. Je suis toujours allé dans des bars, parce qu'en fait, il y a des personnes que je ne touche absolument pas habituellement, qui ne passent pas la barrière ou la frontière de la librairie et que j'entends totalement, mais qui pourtant sont sont touchés par les mots qu'on peut utiliser, par les images qu'on peut créer, et qui pourtant, après certaines scènes de slam, me disent « Moi, je vous préviens, je connais rien du tout à la littérature, mais là, votre dernier texte sur les alcooliques, il m'a vraiment touché, quoi. » Donc, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là.
Et là, par exemple, ce vendredi soir, comment ça va se passer, finalement ?
J'en ai aucune idée. Moi, je me présente au bar. Il y a des gens qui vont se présenter au bar. Pour information, ce sera à la Nef à partir de 19h30. Et je pense que c'est la première fois que je vais expérimenter quelque chose. Habituellement, voilà, toujours un peu timide. Je dis mes textes, ça peut cogner un petit peu, mais il y a toujours une forme de distance aussi avec les spectateurs. Je suis loin d'être un one-man show, mais là, j'ai envie de créer justement un peu d'interactivité aussi avec les personnes qui seront présentes. Donc, je pense qu'il suffira simplement pour eux de s'asseoir et d'essayer d'être attentif, parce que je joue énormément du double, voire du triple ou quadruple sens des mots, et je sais que c'est un exercice qui peut pas durer une heure. L'idée, c'est aussi d'y aller avec mon livre, parce qu'il se vend pas plus que ça en librairie, et c'est normal, parce que c'est de la poésie. Enfin, c'est normal, je sais pas si c'est normal, mais c'est coutume que la poésie se vend très mal. Il y aura une moitié environ de lecture de poèmes, donc c'est voilà, on est sur un format un peu plus calme, un peu plus posé, plus de lecture, et il y aura une partie un peu plus dynamique justement de textes de slam que moi j'ai pu écrire de mon côté, et je sais que cela peut davantage plaire aussi.
Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds. Cool.
c'était l'impératrice avec Peur des filles, bien sûr, issue de leur album Takotsubo, sorti en 2021. Vous êtes toujours sur l'autre radio, à l'écoute de l'agité du local. Et nous sommes vendredi, et comme chaque vendredi, on feuillette ensemble quelques pages du Haut Anjou qui vient de sortir aujourd'hui, et oui. Et à la une aujourd'hui, cette société qui va sécuriser les Jeux Olympiques 2024 à Paris, parce que oui, forcément, il y a plusieurs sociétés de sécurité qui seront embauchées, mais la société A2B Sécurité, basée à Château-Gontier, en fera partie. Ils feront partie donc de la sécurisation des prochains Jeux Olympiques. En l'occurrence, ils seront sur deux zones précises dans deux stades déjà identifiés, en sachant que cette entreprise est habituée à l'intervention dans des festivals et entre autres aux 24 heures du Mans. Autre sujet abordé dans votre hebdomadaire, saviez-vous qu'il existait une rue de la soif, un Saint-Fort ? Eh oui, c'est très peu connue, mais oui, elle existe sur un terrain privé, celui de Claude Ribaud, avec plusieurs façades de chalets colorés, toute cette décoration faite avec de la récup, et notamment, surtout depuis le confinement, donc depuis 2020, le propriétaire s'est attelé à faire ce petit lieu insolite, qui plaît à ceux qui louent une salle à Saint-Fort, donc à ce même propriétaire, qui peuvent aussi profiter de ce lieu-là. Il y a plusieurs photos d'ailleurs que vous pouvez retrouver en page 9 de votre hebdomadaire. Autre sujet abordé là aussi par une question, pourquoi le bâtiment multifonction d'Empoigné n'est-il pas ouvert ? Il est pourtant prêt, en tout cas de l'extérieur, mais il y aurait encore des soucis au niveau de l'accès d'Internet, du restaurant qui devait s'installer et qui finalement a changé de propriétaire, et les élus espèrent une inauguration de ce bâtiment à Empoigné cet été. Évidemment, ce sont seulement trois sujets choisis de ce journal aujourd'hui du Haut Anjou. Il y en a plein d'autres donc à retrouver en kiosque, bien sûr. Et puis, comme chaque vendredi, là aussi, eh bien, on va pouvoir regarder ensemble ce qui nous attend ce soir et puis ce week-end aussi, les choses à ne pas manquer dans le département. Avec cette fête foraine qui se poursuit à Laval, dans le centre-ville, Square de Boston, pendant encore une semaine. Évidemment, c'est ouvert toute la journée, le week-end, d'autant plus encore plus tard, là, avec ce samedi, dimanche et lundi. Il y aura aussi une grande chasse aux œufs, bah oui, Pâques oblige, ce dimanche, organisée par le Secours Populaire de Laval, dans le jardin de la Périne, et oui, donc ce sera demain de 13h30 à 16h30 et dimanche de 10h à 16h30 au jardin de la Périne. Vous payez 5€ à l'entrée et après tout est accessible, aussi bien la pêche à la ligne que le chamboultou, des structures gonflables. Bien sûr, tout ça, ce sera entre autres pour permettre à l'association de poursuivre ses actions et puis également de financer des projets de solidarité. Ça, c'est ce week-end, bien sûr, à retrouver. Il y aura aussi un match d'impro, et oui, du théâtre d'improvisation proposé à Vège. Match d'impro junior, et oui, ce sont des ados, des jeunes qui vont participer. En l'occurrence, match entre la petite compagnie et l'imaginoire de Trélazé. J'allais dire dans le Maine-et-Loire, mais non, en fait. Donc, ce sera demain à 17h30 à Vège, à la salle La Passerelle, à retrouver. Donc, il y aura aussi rapidement, évidemment, du foot, et oui, au stade Francis Lebasser à Laval, puisque les Tangos reçoivent Grenoble, demain à 19h. Là aussi, c'est à retrouver. En ce week-end de Pâques, bien sûr, il y aura aussi une chasse aux œufs à l'Orbière, à Forcé. Et oui, ce sera de midi à 17h ce dimanche. Et c'est gratuit, avec aussi des parcours dans les arbres. Donc là, je vous conseille de réserver, bien sûr. Une chasse aux œufs aussi au jardin des Renaudis, dans le Nord-Mayenne, à Colombier du Plessis. Et puis, on en a déjà parlé dans cette émission, mais ce lundi, il y aura aussi le trail urbain de Château-Gontier à partir de 9h ce lundi dans le centre-ville. Si vous voulez vous inscrire, je pense que c'est vraiment les derniers instants, puisque les inscriptions seront closes demain. En tout cas, vous pouvez aller supporter ceux qui vont faire 5 km de course ou 11 km donc pour l'association 7 d'honneur, donc pour venir en aide à un enfant en situation de handicap. À ne pas manquer non plus, évidemment, il y a d'autres choses. Il y aura aussi la rentrée littéraire, la présentation de la rentrée littéraire de printemps. Ce sera à Château-Gontier à la médiathèque le mardi 11 avril à 17h30. La réservation avec la librairie M. Niranjou. La réservation est conseillée au 02 43 09 50 53. Et puis plus proche de nous ce week-end à Keulen-Saint-Gaud où la ville participe à la semaine olympique et paralympique dont on parlait en tout début d'émission. Avec un objectif 2024 km, et oui, avec un record l'an dernier à battre, 2053 km avait été réalisé, donc à pied, à vélo, en nageant en tout cas. L'objectif, c'est bien sûr de faire du sport à l'occasion de cette semaine olympique. Et puis une randonnée verte est proposée demain de 10h à midi au départ du parking de la salle des fêtes. Là, l'idée, c'est de pouvoir profiter du bon air, de marcher, le tout en ramassant les déchets qui seront trouvés sur le chemin. Ça, c'est ce week-end, bien sûr. Il y aura aussi une sortie de résidence de la compagnie Presque Siamoise avec leur spectacle Comeback. Ce sera l'occasion de voir un petit peu aussi le processus de création d'un spectacle, puisque là, c'est le spectacle n'est pas encore totalement finalisé. Donc, ce sera aussi l'occasion de voir comment ça se passe, et de poser les questions à l'issue, puisque ça, ce sera donc mardi 11 avril, mardi prochain, à 19h au Théâtre des Trois Chênes à Loiron. Et puis, il y aura aussi cette sortie de résidence qui sera proposée à l'ASCOMAM à Laval, le vendredi dans une semaine, vendredi 14 avril, à 18h. Encore beaucoup de choses, évidemment, à retrouver tout au long de ce week-end et des prochains jours, bien sûr, à chaque fois, avec le lancement, entre autres, de Laval Virtual. Mercredi prochain, ce sera la 25e édition du Salon à l'espace Mayenne à Laval. Donc, je disais, le lancement du salon le mercredi, mais le week-end sera plutôt accessible au grand public, donc samedi et dimanche prochain. Évidemment, c'est non exhaustif, c'est juste une petite sélection de ce qu'on a repéré pour vous ce week-end et dans les prochains jours. Et ça signe surtout la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce vendredi. Restez bien sur l'autre radio, puisqu'à 19h ce soir, il y aura Dancehall Social Club. Et puis ce week-end, notamment, ce samedi à 10h, l'émission Haut et un bon. Et ce sera suivi à 13h de l'émission musicale Rock Dreams, bien sûr. Et ce dimanche à 11h, ne manquez pas Sport Épique, là aussi, votre émission autour du sport avec ses chers animateurs. Et nous, on revient non pas lundi, puisque lundi c'est férié, mais mardi, toujours à 12h15. Je vous souhaite une très belle journée et surtout un bon week-end.